Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver au rendez-vous des découvertes artistiques. Toute cette semaine, les carnets sont à Poitiers. Dernière étape, et non des moindres, la Fanzinothèque. Unique lieu en France dédié aux fanzines, le plus important d'Europe, et déjà 30 ans d'existence qu'elle fête cette année. Marie Bourgoin, documentaliste de la première heure, nous reçoit. Une première question, peut-on observer des changements entre le fanzine d'hier et celui d'aujourd'hui?
Pas tant que ça. Le principal écueil qu'a toujours rencontré les fanzines, c'est la distribution, la diffusion. Et ça, je dirais qu'en 40 ans, ça n'a pas des masses changé, quoi. C'est pour ça que les fanzines, surtout dans la bande dessinée, passent plutôt à la micro-édition. Essaient de se syndiquer, de se fédérer pour essayer d'avoir un petit peu de diffusion. Parce que c'est vraiment... Le problème, c'est que c'est invisible comme presse. Et ça, ça n'a pas beaucoup changé. Après, les styles, bien sûr, les préoccupations de l'époque, on les retrouve dedans. Et effectivement, nous, maintenant, on a vachement plus de fanzines sur le queer, le féminisme ou l'écologie, ou le vélo, des choses comme ça. Parce que c'est actuellement de ça dont les gens ont envie de parler, quoi. Et ils ne trouvent pas forcément les bonnes réponses dans la presse officielle. Ou alors, ils ont envie de donner leur propre opinion aussi. Hein, simplement dire, moi, je pense que... Ce n'est pas la parole d'évangile, mais c'est chacun amène sa petite pierre à l'édifice. De façon.
Il y a un livre qui permet de comprendre un petit peu l'histoire des fanzines en France. Le titre Fanzinorama.
Fanzinorama, voilà.
Qui a été édité chez l'éditeur
Oebeck.
Oebeck, voilà. Qui vous a sollicité pour écrire les textes et pour faire un choix.
Les textes et puis la sélection. Ce qui n'était pas facile, puisque moi j'avais proposé, là il doit y avoir dans les 200 images, j'en ai proposé pas loin de 900. Et on n'a pas fait le tour du truc en fin de compte, parce que là j'ai quand même choisi des images belles, des documents qu'on ne voit pas finalement, parce que nous ici on les conserve, mais on les trouve nulle part. Nulle part, ils ne sont pas conservés par les bibliothèques. Très peu, à la BNF il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Et on a des très belles choses, quoi, qui méritent vraiment d'être remises un petit peu devant les yeux des gens, et qui racontent aussi une évolution du dessin. C'est pour ça que c'est un livre qui est un peu historique, puisqu'on a quand même une chronologie, on parle des années 80. On va pas tout à fait jusqu'à l'époque contemporaine, si on s'arrête un petit peu vers 2010. Laisser un petit peu aussi aux collections le temps de mûrir et puis de voir ce qu'elles deviennent. Parce qu'un fanzine, on sait quand il commence, on sait pas forcément jusqu'où il va aller. Souvent, il va pas très loin, en fait. Et voilà, l'idée de remontrer beaucoup d'images. Le texte est historique, mais pas trop intello. On sait vraiment, il n'y a pas trop d'analyse ni d'histoire de l'art, mais plus, c'est plus brut, en fait, hein, plus montrer un petit peu. C'est pas facile de faire des années sur des sujets qui sont tous disparates, ces fanzines. Ils fonctionnent pas ensemble, ils sortent pas d'une seule école, ils sortent d'aucune école, l'école de la rue, comme on dit. Et donc, c'est pas évident de, il y a des familles, il y a des filiations, mais c'est pas évident de refaire un chemin très très bien balisé. Donc, c'est un petit peu en foutoir, exprès, pour rendre un peu plus ce foisonnement et puis toutes ces connexions qui sont créées de titre à titre, de fanzine, tel un fanzine qui dessine dans l'autre et puis vice-versa, toutes ces espèces de bouillonnements souterrains et remettre toutes ces images quand même un peu en vue, qu'on puisse les revoir.
Ils sortent pas de l'école, ils sortent quand même tous pas mal de la photocopie. Hein. Vous dites dans le livre que sans la photocopieuse, il n'y aurait pas eu tous ces fanzines.
C'est sûr, hein, pour le graphisme, ils sont quand même débrouillés avec beaucoup d'autres moyens, plus comme de l'offset ou de la sérigraphie. Mais le commun du fanzine, le fanzine de base, n'ayant aucun argent, va... Et ça, c'est dû à l'arrivée des photocopieurs en libre-service. Ça se pratiquait déjà un peu avant, mais c'était plus compliqué tout de même. Voilà, il suffit d'aller au photocopieur avec son papier. Ça veut dire qu'on fait absolument ce qu'on veut. Les fautes d'orthographe, tout ça, c'est presque recommandé, on va dire. Et puis, il n'y a aucune censure au-dessus. Aucune instance qui va dire c'est bien ou c'est pas bien ce que tu fais. C'est donc les gens sont parfaitement libres. Ce qui permet un petit peu de débrider les imaginations et d'expérimenter, hein, parce qu'on perd pas grand-chose, en fait. On ne prend pas beaucoup de risques. Et c'est quand même un super moteur pour la création. Savoir qu'on va quand même pouvoir un petit peu les diffuser, au moins les montrer aux proches.
Merci à Marie Bourgoin, documentaliste de la Fanzinothèque de Poitiers, à lire l'épais ouvrage titré Fanzinorama, édité chez Oebeck. Poitiers, c'est la ville où nous étions cette semaine, c'est fini. Retrouvez toute la série sur franceculture.fr, à la page des carnets de la création, Charlotte Roux. Lucien Lefebvre, Pierre Monteil, Sylvia Favre, Aude Lavigne.